Depuis 3 jours que Nina dort à point fermé. Depuis 3 jours, je me démène à son chevet. Je lui chatouille les orteils, je lui mordille les oreilles. Rien n'y fait, Nina dort à point fermé. De temps en temps, je pose ma tête sur sa poitrine. Je m'en fais pas puisque son petit cœur tambourine. Et pourquoi je ferais venir le médecin? C'est évident, Nina n'a rien. Nina va bien puisque son petit cœur tambourine. Debout, 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 ma Nina. Debout, 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 ma Nina. Ma Nina n'est jamais à court de stratagèmes. Nina veut peut-être seulement savoir si on l'aime. Nina peut être rassurée, tous ceux qui l'aiment ont défilé avec des fleurs et des religieuses au café. Et si Nina s'était perdue dans son sommeil, dans un dédale avec des portes toutes pareilles? Ninette a de l'imagination, mais pas le sens de l'orientation. Et si Nina s'était perdue dans son sommeil? Debout, 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 ma Nina. 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 Depuis 3 jours que Nina dort à point fermé. Depuis 3 jours, je me démène à son chevet. Je lui chatouille les orteils, je lui mordille les oreilles. Rien n'y fait, Nina dort à point fermé. Rien n'y fait, Nina dort à point fermé. Rien n'y fait.
Bonjour à tous. À l'occasion de la présentation du spectacle musical Ici Balao, presque oui, à la Bouche d'Air à Nantes, les élèves de la classe de CM2 de l'école de la Chauvinière, avec leur professeur, M. Cyril Sec, ont rencontré le chanteur Thibaut de Fevert, créateur de ce spectacle, mélange de chansons, de contes et de poésie musicale. Merci à Isabelle Châtelier de la Bouche d'Air pour avoir permis cette rencontre.
C'est ni là, ici bas, ni là-haut, dans l'au-delà, c'est l'ici bas, là-haut. Pile en plein milieu des nuages et de l'eau, c'est l'ici bas, là-haut. C'est là où j'oublie, où je vais, qui je suis, où est ma maison. Là où mon vélo file au fond de l'eau, en colimaçon. C'est là où tu veux, si tu veux, quand tu veux. C'est ici et là, c'est là-bas, c'est là-haut. C'est l'ici-bas, là-haut. C'est là où je dis, si je veux, quand je veux. Des mots sans la tête, des mots sans la queue. Et faut qu'on dégomme, cucumou la peau. Susalivala, susalivala, dernier retour à la piste. C'est là où je franchis, déguisé en pinson, le murmure du son. Et 1, 2, 3. J'ai pas loupé le looping et j'ai vu les avions. Si tu veux, je descends tout en bas. Tu me crois, je cours à toute allure. Tu voudrais me battre sur ma tripe, pourtant tu le sais. Ici-bas, je suis le roi des alizés. Tout bien considéré, si tu veux, je t'apprends à rêver ton looping, à devenir avec et là, en roi du là-haut. Mais ça dépend, t'as qu'à bosser, t'as qu'à bosser, t'as qu'à bosser, t'as qu'à bosser. Voilà. C'est là où tu veux, si tu veux, quand tu veux. C'est ici et là, c'est là-bas, c'est là-haut. C'est l'ici-bas, là-haut.
Bonjour, nous sommes ici dans la salle Paul Fort, où se tiendra aujourd'hui, le 29 mars, le spectacle Ici Balao. Nous sommes en compagnie de Thibaut de Fevert qui répondra à nos questions et nous présentera ce beau concert.
Presque oui, c'est d'abord Thibaut de Fevert, guitariste, chanteur, auteur et compositeur de chansons. Depuis une quinzaine d'années, il chante partout en France. Ses performances entre stand-up, chansons et musique de chambre ont été saluées par un palmarès éloquent. Il va nous expliquer pourquoi, depuis 2 ans, l'idée d'un spectacle pour jeune public lui est venue.
Quand tu étais jeune, Quel genre de musique aimais-tu ? Pourquoi la musique ?
Alors, quel genre de musique ? Bah, en fait, j'ai tout écouté quand j'étais petit. J'ai écouté plein de choses. Mon père écoutait de la musique classique, mais aussi des chansons. Mon grand frère écoutait beaucoup de comme on dit, du rock progressif. C'est-à-dire Pink Floyd, Jethro Tull, des noms que vous pourrez aller écouter si vous voulez. Hein, Yes, vraiment de la musique des années 70. Et en fait, je me suis nourri de pas mal de choses. Voilà, le tout début, vraiment le tout début. Quand j'avais 8 ans, je me suis fabriqué une guitare en carton. Eh ouais, je me suis fabriqué une guitare en carton. Et avec des copains, on faisait un groupe qui s'appelait Lidoriden, je crois. À moins que ce soit Hardcore, oui, le premier nom c'était Hardcore. On faisait un groupe, il y avait des copains qui avaient des barils de lessive et qui tapaient dessus. Donc vous imaginez le son vraiment pourri. Moi j'avais ma guitare en carton qui faisait aucun son. Je chantais mais je faisais... Voilà. Et j'avais un troisième copain qui avait un orgue Bon Tant Pis. C'était les orgues Bon Tant Pis à l'époque, c'était des orgues qui faisaient... qui reviennent vraiment à la mode maintenant. Et on faisait une sorte de bouillie incroyable. Et ma mère a vu que ça me plaisait vraiment de faire voilà, de diriger un groupe, tout ça. Et puis, elle est allée à la cave un jour. Et je ne savais pas, elle avait commencé la guitare quand elle avait à peu près le même âge. Mais elle avait juste fait ça. Et puis, elle s'est arrêtée. Voilà. Elle n'est jamais allée plus loin. Donc, elle avait une guitare qui était au grenier. J'ai dit à la cave, mais c'était au grenier. Elle l'a descendue. Et là, je me suis retrouvé avec une vraie guitare. Et j'ai une cousine qui m'a montré quelques accords. Qui m'a montré ça. Et là, j'ai commencé... Je me suis dit, mais c'est génial. J'ai commencé à chanter des trucs que j'ai inventés. Voilà, j'ai tout de suite inventé des chansons, genre... Swans stood around, fed a sodi sit around, fed a rich near around. Alors là, je fais pas de l'anglais, c'est absolument n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle du yaourt. Vous voyez, c'est une imitation de l'anglais. Stand and shringham, Hollywood. Shrine and fun and running, if you go to New York. Voilà. Et j'ai fait des centaines de chansons comme ça. C'était toujours les mêmes accords, toujours les mêmes paroles, mais j'étais content pour moi. C'était des chansons différentes. Et après, j'ai fait de la guitare dite classique. J'ai commencé à travailler la guitare classique, c'est-à-dire j'ai appris à jouer des morceaux comme... C'est-à-dire la guitare qui se suffit à elle-même, où on n'a pas besoin de chanter. C'est la guitare qui chante. Mais finalement, après des longues études de guitare classique, j'ai été rattrapé par la chanson, par le fait de chanter avec la guitare. Et j'y suis revenu vers 22-23 ans, quand j'ai rencontré Marie-Hélène Picard, qui était la première chanteuse de Presque Oui. C'est avec elle que je me suis remis à faire des chansons, et à en écrire, et à reprendre aussi des chansons. Voilà un petit peu le début du parcours.
Comment as-tu commencé la musique ? En quelle année avez-vous commencé la musique ? Et quel a été le déclic qui t'a donné envie de faire de la musique ?
Alors, bah, je crois que c'est un petit peu ce que je viens de dire. C'est surtout une histoire de rencontre, en fait. La première rencontre, ça a été avec la guitare. D'ailleurs, quand j'ai eu la guitare pour la première fois dans les mains, mes parents me racontent souvent que j'ai pu lâcher, quoi. Vraiment, j'avais envie de dormir avec et tout. Et dès que je rentrais de l'école, je jouais, j'étais complètement passionné. Ça a été ça, le premier déclic. Et puis après, des rencontres. Ce prof que j'ai eu, le premier prof que j'ai eu, qui était un prof aveugle, Monsieur Michel Beauvois, il s'appelait. Il était aveugle et je me souviens qu'il m'a appris des choses, mais sans partition d'abord. Ensuite, il a sorti des partitions, mais lui, il avait des partitions en braille. Vous voyez, l'écriture pour les gens qui sont aveugles. Et donc voilà, ça a été une grande rencontre. Et puis après, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris des petites choses. Par exemple, un jour, le père d'un ami m'a appris à jouer... Blackbird. Mais je la chanterai pas parce que je connais pas les paroles. Mais en tout cas, quand j'ai su jouer ça, je me suis dit, ça y est, je suis un grand guitariste. Et puis après, j'ai vu rencontrer d'autres guitaristes et je me suis dit, ah ben non, je suis pas vraiment encore un grand guitariste. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc si on parle de déclic, les rencontres et l'instrument lui-même, oui.
Quel instrument préfères-tu ?
Oh bah, Alors, à l'écoute, il y a des instruments comme la trompette que j'adore, vraiment. J'adore la trompette. Le trombone aussi, d'ailleurs, qui est sur scène, avec Pierre qui joue du trombone. Maintenant, j'ai essayé de jouer d'autres instruments. J'ai essayé de jouer de la viole de gambe, qui est un instrument ancien. J'ai essayé de jouer du cor. Enfin, j'imite très mal le cor comme ça, mais... Ça m'allait pas trop. En fait, je suis toujours resté sur la guitare. Donc, la guitare, c'est mon instrument de prédilection. Et puis, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse... c'est comme un... Il y a une phrase qui est très, très jolie, qui dit que la guitare, c'est un moyen de transport facile à transporter. Ça veut dire que c'est... il suffit d'avoir une guitare avec soi. On peut faire voyager les gens, on peut voyager. Là, je peux vous faire... je peux vous jouer quelque chose qui va tout d'un coup créer une atmosphère... Je peux créer des ambiances, puis je peux, si j'ai envie, reprendre ça.
J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus? Et surtout, pourquoi ne me cherchent-ils pas? Je trouve ça ingrat, pas sympa. Je suis... un bébé éléphant égaré, Mbria paparara, pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher?
Vous voyez, si j'ai envie, je chante une chanson. Là, c'est de Dick Hanegarn, c'est un chanteur que j'ai beaucoup aimé. Et on peut voyager dans sa jungle, à lui, avec son bébé éléphant. Voilà. On peut faire. La guitare, ça sert à voyager, ça, c'est un très bon compagnon de route, une très bonne compagne de route. Et je suis très content, pour répondre finalement à la question, très content d'être guitariste.
Comment et quand as-tu créé ce groupe? Pourquoi un groupe et pas en solo?
Ah, alors pourquoi un groupe et pas en solo? En fait, au début, on était un duo avec Marie-Hélène Picard qui chantait. Dans presque oui, ça date de 1997, la rencontre. Donc vous voyez, ça... Je suis pas tout jeune. Et on s'est rencontrés en 97. On a commencé à faire des chansons ensemble. D'abord des reprises de chansons. Voilà, on reprenait des chansons de Thomas Fersen, de Bourville, de Fernandel, des chansons déjà existantes. Et puis on s'est retrouvés à écrire des chansons finalement. Et en 2006, alors qu'on avait sorti notre premier album, la chanteuse a eu une grave maladie, elle a eu un cancer et elle en est morte. Et donc je me suis retrouvé en solo, tu vois, pour répondre à ta question, dans des circonstances un peu dramatiques. Mais je me suis retrouvé en solo et j'ai joué 4 ans, je pense, à peu près. 4 ans en solo. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de concerts pendant cette période-là. Et ensuite... j'ai décidé de m'entourer et là j'ai trouvé un violoncelliste qui jouait aussi des flûtes à bec. On a joué ici d'ailleurs à la Bouche d'Air, dans la salle Paul Fort il y a quelques temps. C'est un duo qui a duré 4 ans aussi, je pense. Et depuis peu, j'ai un trio contrebasse, batterie et moi à la guitare et à la voix. Et j'ai aussi le spectacle Jeune Public, mais avec d'autres gens que vous allez voir tout à l'heure, Pierre et Romain, Pierre au trombone et Romain à la batterie. Vous voyez, en quelque sorte, presque oui, comme c'est un nom de groupe, mais que je suis tout seul, ça veut dire que je peux m'agrandir quand je veux. Je peux très bien prendre tout d'un coup un orchestre symphonique ou un quatuor à cordes. Il n'y a aucun souci pour ça. Presque oui, c'est comme une sorte de collectif que je peux agrandir, réduire, si je veux. Et puis surtout, presque oui, maintenant, c'est plusieurs spectacles. Il y a Ici Balao, il y a Presque oui, il y a aussi Presque nous. Il y a même un autre spectacle que je fais avec une chanteuse. Il y a un spectacle qui s'appelle Luna Soon, voilà, avec des chansons anglaises et espagnoles.
Pourquoi ce nom de groupe?
Ah, très bonne question. Alors d'abord, presque oui, ça tient en une mélodie. Ah, tu dois écrire tout de suite la réponse, en fait. Ah non, tu dois la barrer, d'accord. Alors en fait, c'est d'abord une mélodie. Presque oui, c'est ça. C'est une chanson de Mireille et Jean Nohain. Mireille et Jean Nohain. Donc Jean Nohain, c'était un auteur de poésie, auteur de romans. Et Mireille, c'était une dame qui chantait avec une toute petite voix, comme ça. Hein, et il y a très longtemps, cette chanson, elle date de 1933. Et dans toutes ces chansons qu'on reprenait au début, avec Presque Oui, avec Marie-Hélène, la chanteuse, quand on a cherché un nom, on s'est dit, bah, on ne va pas prendre la chanson de Serge Gainsbourg, qui s'appelle La Javanaise, on ne va pas s'appeler La Javanaise, parce que c'est tellement connu que si on s'appelle La Javanaise, tout le monde va penser qu'on fait du Gainsbourg, qu'on chante que du Gainsbourg. Vous voyez cette chanson ou pas ? J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, etc., etc. Donc ça, c'est une chanson qui est très connue et que si vous ne la connaissez pas, vous la connaîtrez un jour. Voilà. Et on s'est dit, bah non, on va prendre un autre nom de groupe, on va prendre une chanson qui est beaucoup moins connue et qui fait « Presque oui, presque tout, nos yeux fous l'ont promis, un seul regard a tout dit. » Et là, c'est Mireille qui arrive, parce que c'était un duo. Et là, elle arrive. « C'est exquis, merveilleux, nos deux yeux éblouis. » Enfin, elle chantait beaucoup mieux que ça, en fait. Hein. Mais voilà, j'essaye d'imiter. J'imite aussi mal Mireille que le corps, par exemple. Voilà.
Pourquoi as-tu attendu 7 ans avant de sortir un album ?
Ah oui, parce que le premier album est sorti en 2005. En fait, au début déjà, on faisait des reprises de chansons, c'était un peu compliqué d'enregistrer un album. On n'avait pas les sous. Parce que quand on enregistre des reprises, ça coûte un peu plus cher. Parce que ce n'est pas nos chansons. Il y a des droits à payer qui sont assez... Et puis, mais ce n'était pas la seule raison. Je pense qu'en fait, on n'était pas prêts. C'est compliqué d'enregistrer un album. Je trouve que, encore aujourd'hui, je trouve ça compliqué parce que la plupart des gens, la plupart du temps, les gens voient le spectacle. Ils disent, oh, c'est super, oh, cette énergie, oh, c'est marrant ce moment-là. Et puis après, ils écoutent le disque et puis ils disent, ouais, mais c'est pas comme sur scène quand même. Donc en fait, au début, on a essayé de faire des enregistrements qui se rapprochaient de la scène et ça ne marchait pas. Et c'est petit à petit, on s'est dit, ben, il faut créer un univers qui soit uniquement sur le disque, quelque chose qui suffise pour les oreilles, voilà. Et c'est, il a fallu du temps pour ça. On a fait des enregistrements, mais on n'était jamais très contents. Et en 2005, avec un monsieur qui s'appelle Marc Bernard, on a enfin trouvé, il nous a fait vraiment travailler sur le qu'est-ce qu'un disque, voilà, comment on fait pour enregistrer un disque. Parce qu'évidemment, sur scène, voilà, moi je vais faire des bêtises, je vais me mettre à danser, je vais faire des blagues, mais on ne va pas les mettre sur le disque. Parce que si vous faites une blague sur le disque, la première fois c'est drôle, la deuxième fois, bon voilà, et alors la troisième fois, on en a marre, quoi. Donc du coup, on ne fait que les chansons et il faut qu'elles tiennent. Et il faut trouver des façons de faire en sorte qu'on voit presque ce qui est sur scène, mais avec les oreilles. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est, en fait, c'est tout un boulot, quoi. Donc ça a pris du temps.
Quel est ton style de musique ?
Alors le style de musique, ben, avec Presque Oui, dans les chansons que je fais, tu veux dire ? Je pense qu'il y a plusieurs styles, parce que j'ai écouté beaucoup de choses, donc du coup, y a une technique de guitare que j'utilise beaucoup, qu'on appelle le finger picking. Ça vient vraiment de la musique américaine, de Chet Atkins, et c'est un peu dans ce goût-là, quoi. Dylan. Enfin, Dylan, c'est plus ça, en fait. Babe. Je connais pas les paroles. Hein. It's alright. Yeah. Babe. Dark side of the road. Des fois, je connais des petits mots comme ça. Donc, ça, c'est vraiment de la country. C'est vraiment un style que j'utilise beaucoup. Mais après, ça dépend. Des fois, tu vois, la fin d'Ici Balao, on est là. Donc là, à quoi ça se rapporte comme, c'est peut-être un peu plus rock, mais en même temps, il y a un rythme un peu africain derrière. Donc, on est... On est dans un croisement d'influences, tu vois. Je pense que c'est difficile de dire j'ai un style de musique. Je pense qu'il y en a plein. Tu vois, à un moment donné, il y a de la pop un peu. Ici, je manque pas d'air, j'ai tout le ciel pour moi. Ici, je manque pas d'air, j'ai tout le ciel pour moi. Ça pourrait être une chanson du groupe Téléphone ou des Smiths, éventuellement. Voilà, par exemple.
As-tu envie de t'échapper ? As-tu peur quand tu es sur de la scène ?
Ah oui, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai peur sur scène ? Est-ce que j'ai envie de m'échapper ? Écoute, ça dépend des moments, mais c'est vrai que je dirais qu'assez souvent, avant de monter sur scène, il y a un petit réflexe de fuite qui fait que j'aimerais bien être ailleurs. Parce que ça fout les jetons. Et en même temps, c'est très mélangé. C'est-à-dire c'est à la fois l'envie de monter sur scène qui est très très forte, et d'ailleurs on fait tout pour ça, et en même temps des fois on se dit mais pourquoi je me suis lancé là-dedans quoi ? Pourquoi je me suis lancé là-dedans ? Je vais jouer devant 400 enfants complètement déchaînés qui vont me lancer des tomates, qui vont faire n'importe quoi, qui vont regarder leur portable, qui vont faire ça va être horrible. On peut avoir une capacité à imaginer le pire, à imaginer que ça va très très mal se passer. Puis en fait, la plupart du temps, ça se passe quand même très bien et on ne regrette pas du tout d'y aller. Au contraire, je pense qu'on regretterait de s'être enfui. Voilà.
Joues-tu à l'étranger ?
Alors, ça m'est arrivé de jouer à l'étranger dans les pays francophones, dans les pays où la langue est française. Par exemple, en Suisse francophone, en Belgique, beaucoup en Wallonie, beaucoup moins en Flandre. Parce que la Belgique, vous avez les Flandres et la Wallonie. La Wallonie, on y parle français. Voilà. Et là, en Flandre, on y parle le néerlandais, donc, ou le flamand, on va dire, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Donc voilà, donc c'est un exemple. Mais sinon, il m'est arrivé de jouer au Québec. Voilà, donc le Canada. Et là, c'est très marrant parce qu'on y parle la même langue, enfin, avec des expressions très différentes et un accent que je n'oserais pas imiter. Alors là, c'est sûr, je ne le ferai pas. On y parle la même langue, mais la culture est très différente. C'est-à-dire que c'est très troublant. C'est comme en Suisse hein, aussi, on a l'impression « Ah, bah, on se connaît, on est frères, on parle la même langue. » Et puis en fait, il y a vraiment des différences culturelles très fortes. Donc, ça ne tient pas qu'à la langue.
Comment trouvez-vous l'inspiration de vos chansons ?
Alors, l'inspiration des chansons vient de... Déjà, en fait, je me suis fait une réflexion. C'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai un grand ennemi qui s'appelle l'ordinateur. Voilà, l'ordinateur, c'est quelque chose qui vous bouffe complètement, qui vous prend toute votre attention, sur lequel vous pouvez passer 18 heures sur 17 sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, là, il faut se calmer un petit peu avec ça. Il faut refaire le silence en soi. Il ne faut pas avoir peur de se retrouver avec soi-même, d'éteindre tout ça, d'éteindre la télé, les ordis, éventuellement de lire un livre, et puis après d'essayer de rester des fois aussi sans rien, dans le silence. Et là, il y a des choses qui montent. Parce que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire comme chanson après ? Je suis paumé, je ne sais pas quoi écrire. Et en fait, il suffit que je me taise, que j'écoute un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ou ce qu'il y a autour, et là, les mots remontent. Ils étaient juste enfouis. Ils étaient juste oubliés, un petit peu muselés. Et en fait, si on laisse remonter les choses, il s'en passe des choses. Voilà, donc l'inspiration, ça vient d'abord de ça, de se mettre en disponibilité, de se mettre en position d'avoir envie d'écrire et de pouvoir écrire, d'aller dans un bel endroit, pourquoi pas en bord de mer, comme je fais souvent, en Bretagne ou ailleurs. Et puis là, j'essaye de laisser monter des choses. Et puis après, c'est en lisant un livre, en écoutant une phrase, en chopant comme ça un petit truc dans la rue, on peut avoir envie d'écrire là-dessus. Vous voyez ? Ça vient comme ça, par des petites choses, des petites phrases, un film aussi.
Comment se passent les répétitions ?
Les répétitions se passent très très mal. Non, je plaisante. Les répétitions avec Pierre qui est là-bas se passent très très bien. En fait, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'on répète régulièrement le spectacle, ici bas là-haut. On ne peut pas dire qu'on se voit toutes les semaines, ce n'est pas vrai, pour travailler. En fait, ce qui s'est plutôt passé, c'est qu'on s'est vus pendant un mois, disons, en tout. Pendant un mois, on a travaillé ensemble. Et après, on part en tournée, on commence à jouer le spectacle. Mais on ne le répète plus, sauf un peu au moment des balances que vous avez vues, là, au moment des réglages techniques. Là, on répète les morceaux. Mais sinon, on ne se dit pas, bon, alors rendez-vous le vendredi, machin, à telle heure, pour répéter les morceaux. Une fois qu'on a travaillé, Pendant un mois, vraiment sur scène, après les chansons sont là.
Quel sera le titre de votre prochaine chanson ?
Le titre de ma prochaine chanson ? Ah bah j'ai plein de petits départs de chansons, mais qui sont pas encore finis. Il y en a une que j'aimerais bien écrire un truc qui dise « Je suis dans le vrai ». Voilà, mais je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Si, ça pourrait faire.
Je suis dans le vrai, je suis dans le vrai.
Voilà, mais c'est pas sûr.
Sur quel projet travaillez-vous en ce moment ?
Alors pour le moment, je me consacre aux projets qui sont en tournée. Donc il y a Presque Oui, Presque Nous, Ici Balao, Luna Soon. Et je ne mets pas d'autres projets en route parce que sinon c'est trop. Sinon c'est très difficile. Donc je suis très content d'avoir 4 spectacles. Et en même temps, des fois, c'est un peu compliqué parce que par exemple, Ici Balao a beaucoup de succès. Les autres un peu moins. Alors on se retrouve à devoir... des fois refuser des dates d'Ici Balao pour pouvoir jouer d'autres spectacles, voilà. Mais sinon le projet c'est d'écrire pour l'instant et après on verra sur quoi, même si je commence à penser à un deuxième spectacle jeune public pour l'avenir, mais c'est encore très très, je pense que ça parlera d'écran aussi et de ce qu'on appelle l'addiction à l'écran. C'est-à-dire, c'est quand même un grand problème aujourd'hui, c'est d'être tout le temps sur l'ordi ou tout le temps sur la tablette ou sur le téléphone. D'ailleurs, il y a quelques jours, on jouait Ici Balao devant des écoles. Il y avait un instituteur, vous imaginez, un instituteur qui a passé tout le spectacle sur son téléphone, en train de regarder. Voilà. À tel point qu'à un moment donné, je me suis arrêté, je lui ai dit « Monsieur, je vous vois, parce que ça fait une lumière, ça lui fait une tête de zombie, comme ça. » Et je lui ai dit « Monsieur, monsieur. » Et il a mis 10 secondes environ à entendre que je lui parlais, quoi. Vous imaginez un petit peu le truc. Et ça, quand on est en spectacle, c'est insupportable. Voilà. C'est un message un peu subliminal, hein, comme ça vous ne le ferez pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que les écrans envahissent tellement tout qu'on en oublie des fois d'être dans le moment présent. Voilà, il y a des gens qui préfèrent tout le temps photographier ou tout filmer plutôt que d'être là. Parce que je crois que ça fait peur d'être là, simplement, et de juste profiter. Et voilà, soyons vigilants avec ça et ce sera peut-être un thème de spectacle, je pense.
Bon, je crois que les questions sont finies, mais je ne vais pas m'empêcher d'en poser une ou deux quand même à Thibaut. Ce travail avec le jeune public qu'on a réalisé là, tu le fais, je crois, assez régulièrement ?
Ah oui, alors pas forcément souvent sous forme d'émissions de radio, même si c'est arrivé. Mais les rencontres avec les enfants, c'est très courant. Et pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel parce que vous savez, toutes les chansons que je chante là ou comme beaucoup d'autres chanteurs et chanteuses, on n'est pas forcément diffusé en télé ou en radio. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous, forcément un accès à ce qu'on fait, à ce qu'on chante. Et là, par le biais du spectacle, et grâce à des organisateurs de spectacle comme la Bouche d'Air et les gens de la salle Paul Fort, grâce à eux, vous avez accès à des chansons que vous n'entendriez ni à la radio, ni à la télé. Donc pour moi, c'est essentiel de transmettre ça. Parce que je pense que les radios et la télé ne sont pas forcément intéressés par le fait de vous amener des choses... un peu des fois étrange, un petit peu décalé, un petit peu original. C'est un autre, il y a des soucis financiers qui sont derrière aussi, qui motivent la diffusion de certaines musiques. Pas seulement, hein, je ne veux pas caricaturer, mais surtout pas, non. Mais en tout cas, voilà, là, vous avez l'occasion de voir du spectacle vivant aussi, d'aller au spectacle grâce à l'école, et ça, c'est génial. Tout le monde n'a pas cette chance. Voilà.
Et ce sera la dernière question. Le théâtre, je pense, ça t'intéresse. Là, tu joues sur la scène également. Donc, il y a tout un travail aussi là-dessus.
Ah oui, parce que là, Ici Balao, c'est vraiment une histoire. Et c'est vraiment un conte. Et c'est ce que je ne faisais pas avant. Donc, pour moi, c'était tout nouveau. Ça a été un gros boulot, d'ailleurs, au début. Là, bah, tu vois, par rapport à ta question, les premières fois qu'on a joué Ici Balao, je peux te dire que j'avais vraiment envie de partir, quoi. Parce que je devais me souvenir de toute l'histoire, tout le texte, au mot près. Et en plus, les chansons, et en plus, supporter Pierre Maresco, là, derrière. non, je plaisante. Donc, ça, voilà, non, c'était un gros travail. Et maintenant, je suis très content d'avoir fait ce travail, d'être dans une histoire, voilà, de prendre les premiers mots. Ici Balao, Ici Balao. Nina, elle avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait même l'Ici Balao, comme si c'était un pays, tu vois. Donc là, j'aime bien raconter ça. Et puis après, je chante et j'alterne les deux. Et j'adore ça.
On va te demander pour terminer un petit extrait musical. Ce sera la conclusion de cette émission. On te remercie et puis on t'applaudit. Je pense que tout le monde peut applaudir chaleureusement à Thibaut d'avoir nous avoir consacré quelques minutes, hein, pour parler de son métier.
Alors je vais vous chanter un petit bout de Je manque pas d'air, voilà.
Ici je manque pas d'air, j'ai tout le ciel pour moi. Ici je manque pas d'air, j'ai tout le ciel pour moi. Les gens sont tout petits vus d'en haut, je fais la course avec les oiseaux. Je suis libre, je suis libre ici. Ici.
Et la suite, ce sera tout à l'heure sur scène. Voilà.